Oui, bonjour, je vous écoutais, je vous parlais de la maison de la petite prairie. En fait, c'est toute mon enfance, mon émission que je regardais quand j'étais petite. Donc, comme vous en parliez à l'instant, c'est un débat sur la maison de la petite prairie. Je vais vous en faire part. Voilà. Bonne journée. Au revoir.
Mais oui, les mecs, enfin de la clairvoyance dans une série dite ringarde. Il y a plus de subtilité dans la maison de la prairie que dans Bonanza, Au nom de la loi, Les envahisseurs, Mission impossible, Zorro, Les envahisseurs, Des agents très spéciaux, Les mystères de l'Ouest, Les envahisseurs, Manix, Ma sorcière bien-aimée, Les envahisseurs.
Allô, bonjour. Genèse, et non pas Genèse. Genèse. Merci.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis de la génération qui regardait La Petite Maison dans la Prairie quand j'étais enfant. Et j'ai toujours trouvé ça niais, métarque, mécuche, insupportable.
Bon, alors moi, je voulais juste préciser que je préférais regarder Dr. Quinn, femme médecin, et pas La Petite Maison dans la Prairie. J'ai toujours trouvé que Dr. Quinn, c'était une série, je sais pas, plus prenante. Voilà, merci, bonne soirée, salut.
To be or not to be, not to be.
Il y a des bandes son qui te sauvent un film. Par exemple, Grease, t'enlèves les chansons et les chorégraphies, et ben il te reste un film très gênant, avec des lycéens qui ont redoublé un sacré paquet de fois. Flashdance, c'est pareil. Sans musique, c'est un documentaire sur le monde de la sidérurgie extrêmement médiocre. Dancer in the Dark, t'enlèves Björk, ce film, c'est un épisode raté de La Petite Maison dans la Prairie. La musique est une composante essentielle de la réussite d'un film. Quand j'étais gamin, j'ai vu Highlander. Alors ok, Highlander, il y avait le grand Sean Connery, mais il y avait Christophe Lambert. Christophe Lambert en immortel, ça fait bizarre, surtout si avant tu l'as vu dans Hercule et Sherlock. Christophe Lambert, il a un agent, il pourrait te vendre des moon boots à un bédouin. Parce qu'en 40 printemps, j'ai vu Christophe Lambert jouer Tarzan, Raiden, le dieu du tonnerre dans Mortal Kombat, et Vercingétorix. Moi j'aurais pas été surpris de voir Christophe Lambert jouer un Jedi dans Star Wars, il devait pas être dispo le jour du casting. Christophe Lambert, Highlander. Mais peu importe, c'est passé crème parce que la BO du film, c'était Queen. Princess of the Universe. C'est le talent de ce groupe. Ils ont une telle force, un tel génie de la musique que t'en arrives à croire des trucs totalement incroyables tels que Christophe Lambert en immortel. Queen, ils auraient fait la BO d'un docu sur la vie de Jean-Vincent Placé. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Jean-Vincent, il était président. T'as plus d'essence dans ta bagnole, tu mets un album de Queen dans le réservoir, et bien tu peux encore faire une quinzaine de kilomètres. Queen, ça fait repousser les cheveux, ça fait revenir l'être aimé, et ça relance la libido. Queen, it's a kind of magic.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Derrière l'histoire de Queen, ce groupe de glam rock anglais aux tenues excentriques, aux chansons, à l'orchestration de dingue, à la musicalité qui résiste au passage du temps, à leur performance scénique jamais égalée, et surtout l'histoire moins connue de Farrokh Bulsara, le véritable nom de Freddie Mercury, né à Zanzibar, alors sous protectorat britannique. Alors pour retracer l'histoire de ce groupe mythique qui doit autant à leur talent qu'à la détermination hors norme de Freddie Mercury, j'ai à mes côtés Marie Berginia, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur du livre Queen, la discographie, une approche musicale, dont j'imagine que vous allez pouvoir retracer le parcours de ce groupe absolument mythique.
On va essayer.
On va essayer. Également à nos côtés, Richard Guettet, bonjour.
Hello.
Hello. Alors vous êtes journaliste, écrivain et grand fan de Queen et de Freddie Mercury, l'un va pas sans l'autre. Et également Thomas Jamais, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste des marques et des médias, et vous êtes PDG de l'agence IPG Media Brands, et vous êtes fan de Queen depuis l'âge de 4 ans.
Et oui.
Alors quand je pense que mes enfants sont fans de Pat Patrouille, je me dis qu'ils sont passés à côté de quelque chose.
Il faut faire quelque chose.
Oui. Alors ensemble, on reviendra sur le parcours de Freddie Mercury, sur les groupes qui ont précédé et participé à la naissance de Queen. On parlera de leurs innovations musicales, vestimentaires ou stylistiques, de la manière dont ils ont été reçus par le public et comment ils ont conquis le monde jusqu'à la disparition de Freddie Mercury. Vous êtes dans Blockbuster et aujourd'hui, on parle de Queen.
So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure.
Alors, première question. Qui est Freddie Mercury? Marie Berginia.
Alors, Freddie Mercury, donc, comme vous l'avez dit à la base, il s'appelle Farrokh Bulsara, il est né à Zanzibar. Et très vite, en fait, avec sa famille, il a bougé vers Londres, il a déménagé à Londres et en fait, à la base, en parallèle de la musique, il s'intéressait également aux arts plastiques. Il a fait une école en faculté d'arts plastiques. Et en parallèle, du coup, il faisait beaucoup de musique. Il a eu quelques groupes dans les années 60. Et donc, il a été en contact à cette période-là, en fait, dès le milieu des années 60, avec Brian May et Roger Taylor, qui à ce moment-là avait un autre groupe qui s'appelait Smile.
Smile.
Et donc, après le départ de Staffel, donc qui était le chanteur de Smile, Mercury est arrivé et il fait « Mais c'est super ce que vous faites, il y a moyen qu'on fasse quelque chose si je prends la place du chanteur. » Et par contre, le nom du groupe, ça va pas, donc on va changer de nom et on va s'appeler Queen, parce que Queen, c'est bien. C'est vendeur.
On a déjà bien avancé dans son histoire, mais à la base, Freddie Mercury, c'est un enfant un peu chétif, complexé par ses dents, et qui surtout a été envoyé en pensionnat très très tôt.
En fait, à 7 ans, il a été envoyé en Inde dans un internat. En fait, c'est un fils de comptable qui a plutôt grandi dans un milieu plutôt aisé. Il disait qu'il suffisait de tendre la main et puis un verre de jus d'orange qui lui tombait naturellement. Enfin bref, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pas du tout quelqu'un issu des milieux populaires. Il a été envoyé en Inde dans cet internat. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important pour la formation de son caractère, puisque il a séparé de ses parents et de sa sœur. Il a appris qu'il ne devait compter que sur lui-même. Et il dit qu'en général, que la réputation des internats indiens, des internats en général, est assez vrai. Il a subi des brimades, il était assez moqué, donc il a su, je pense que la détermination dont vous parliez en ouverture, elle vient aussi de cette période formatrice, c'est-à-dire qu'il a dû se développer lui-même. C'est aussi là-bas qu'il est tombé amoureux d'un maître, il a eu une histoire d'amour assez forte avec un de ses professeurs, et c'est aussi à ce moment-là qu'il forme son premier groupe de rock qui s'appelle The Hectics, où il reprenait
Il avait 12 ans, je crois.
Ouais, c'est ça. Il reprenait des standards du rock'n'roll. Donc en fait, là, il y a quand même.
Et il ne chantait pas, il jouait du piano à l'époque.
Ouais. Et je me tourne vers mes camarades qui confirment absolument ça, d'un hochement de tête.
Oui, oui. Thomas Jamais, il opine, il dit oui, c'est ça.
Et donc il y aurait presque quelque chose d'assez beau à essayer d'imaginer, non seulement de tracer les origines perses, l'enfance première à Zanzibar, toute la période indienne, parce que en fait, je pense que son caractère
s'est créé là.
Ici, à ce moment-là, avant l'installation à Londres, vers 17 ans, me semble-t-il, sous l'impulsion de ses parents, ou pour faire des études, pour devenir illustrateur et ensuite se jeter dans la musique.
Et il était également boxeur, ce qui est quand même en plus bon boxeur.
Ouais. Alors, j'ai pas d'informations sur la boxe, mes camarades.
Je sais un truc que vous savez pas. Oh, je suis tellement Bravo. Content. Et donc ensuite, il y a ce départ pour l'Angleterre parce que en fait, ses parents ont fui Zanzibar parce qu'il y avait des gros problèmes politiques à l'époque. Donc ils sont partis se réfugier en Angleterre. Et là, justement, ce statut social, c'est un petit peu effrité. C'est-à-dire que forcément, ils sont arrivés comme des immigrés. Donc il a un peu fallu recommencer, repartir de zéro.
En effet.
Tout va jamais.
Oui, je pense que c'est de là aussi que lui vient son espèce d'assurance, un peu forcée. On savait que c'est quelqu'un d'extrêmement timide, d'extrêmement gentil, foncièrement gentil, ce que disent tous ses amis, ses proches, les gens qu'il a côtoyés. Mais il se cachait derrière un personnage. Il a changé de nom assez vite pour son nom de scène en arrivant, donc de Farouk Boulsara à Freddie Mercury. Et je pense que ce personnage qu'il a complètement habité, c'est quelque chose qu'il a créé et qu'il a su totalement imposer à ses propres yeux d'abord, et puis aux yeux du public après. À tel point que, à cette époque-là, quand il arrivait dans une pièce, effectivement, et qu'il avait commencé sa mue et qu'il passait de Farouk Boulsara à Freddie Mercury, il se passait quelque chose. Ça fait partie de ces personnalités qui entrent dans une pièce, et tout d'un coup, tout le monde se retourne en disant « C'est qui ce mec, quoi ?» Donc, je pense qu'il arrivait avec, à ce moment-là, effectivement, un changement vestimentaire total par rapport à ce qu'il était, ce petit garçon un peu chétif de Zanzibar. Et il est arrivé à Londres, il a commencé à vendre des fringues sur un marché, avec Roger Taylor aussi d'ailleurs, avec qui du coup il a vraiment commencé à lier une amitié très forte. Et cette espèce de personnalité qui se mettait à écouter de la musique, c'était très fan de Jimi Hendrix à cette époque-là.
Ça a été une révélation d'ailleurs quand il exactement. A découvert.
En fait, avec Brian May, apparemment, il y a une anecdote assez géniale où ils écoutaient les disques de Jimi Hendrix en passant d'une enceinte à l'autre en disant mais comment il fait ça, en essayant d'écouter la stéréo, et c'était absolument leur idole. Ils l'ont vu sur scène ensemble, ils étaient c'est un moment un peu magique, on aurait tous aimé y être en même temps à côté d'eux, dire tiens, il y a Hendrix sur scène, puis il y a Brian May, Freddie Mercury là. Donc je pense que ce personnage là effectivement, comme tu le décris très bien tout à l'heure, il a totalement changé de personnalité, mais en même temps il restait le même, et ses origines perses sont restées jusqu'à la fin, puisque quand il est on va peut-être un peu vite, mais au moment de son de la cérémonie religieuse zoroastrienne parsi, quand il a été effectivement accompagné à la fin par sa famille, etc., c'était après un rituel zoroastrien et parsi, donc il est resté dans cette religion là qui était très particulière d'ailleurs, extrêmement extrêmement complexe, et qui jusqu'à la fin de sa vie, comme le dit sa sœur, l'a accompagné.
Alors, on parle évidemment de Queen, mais le mieux avec Queen, c'est encore de les écouter. Et donc maintenant, on va écouter Bohemian Rhapsody de Queen, bien évidemment. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, God.
see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
C'était le cultissime Bohemian Rhapsody de Queen dans Blockbuster sur France Inter. Queen est un groupe connu du monde entier et notre petite princesse Chloé Brassière est allée demander à un petit bout de celui-ci ce que Queen leur évoquait.
Queen c'est merveilleux, Queen c'est mythique, Queen c'est formidable, j'adore.
Que ce soit les instruments, la voix, le rythme, il y a tout qui plaît. C'est des chansons qui rentrent dans la tête, qui te mettent tout de suite dans une certaine ambiance.
Je trouve qu'ils représentent un certain type de musique qui actuellement n'existe plus trop. Donc ça manque, sa musique manque un peu je pense.
Queen, c'est un groupe que j'ai beaucoup rejeté, car il était beaucoup trop populaire. Moi, j'étais plutôt à écouter d'autres groupes que je trouvais un peu plus cool, comme Joy Division, etc. Pour moi, Queen, c'était vraiment trop mainstream. Mais en fait, c'est un peu mon plaisir tabou. C'est-à-dire que j'écoute Queen, mais en cachette, c'est vraiment... j'adore. Je chante fort.
C'est d'une puissance phénoménale. Il y a certains lives de concerts dont on ressent en fait tous les frissons, même en les regardant sur YouTube, c'est quelque chose d'incroyable.
Dans les bars, à chaque fois, à un moment donné, on entend « Is this the real life ?» et tout le monde fait « Waouh, génial !» etc. Bon, à un moment donné, ça commence à saouler parce que c'est dommage. En fait, on l'aime bien cette musique et puis au fur et à mesure, ça devient un peu comme le lac des Connemara, finalement, dans les bars. Enfin, c'est un peu horrible de dire ça, mais... Bohemian Rhapsody, c'est devenu un mainstream, quoi. Enfin, c'est mainstream de toute façon, Queen. Donc,
Pour moi, Queen, c'était un groupe très remarquable. J'étais adolescente quand je les ai découverts. Et c'était remarquable par la personnalité de Freddie Mercury, par son physique et son engagement du côté de la population gay. Voilà, et je me souviens très très bien quand il a déclaré le sida. Mais ça aussi, c'est très remarquable puisque ça fait partie des... Pour ma génération, des artistes, un des premiers artistes qui est mort de cette maladie-là.
Comme toujours, vous pouvez encore pour une semaine nous laisser via notre répondeur des messages au 01 56 40 30 20, au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Queen. Alors, on l'a entendu dans le micro-trottoir, Queen est connu par tout le monde, il semblerait que ça soit apprécié par tout le monde, mais ce dont on n'a pas parlé en début d'émission, c'est que au commencement, Freddie Mercury n'était pas forcément un très bon chanteur et il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient misé sur lui en tant que leader charismatique de Queen.
Bah, il a beaucoup travaillé.
Thomas Jammet.
Il a énormément travaillé. C'est vrai que ce côté un peu self-made man qui sortait de nulle part, on le rappelle avec ce physique, cette espèce de transformation un peu comme une chrysalide. Hein, il a énormément bossé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir cette espèce d'intelligence et puis quelque part d'autodétermination complètement dingue. Et c'est vrai que cette espèce d'intelligence, elle est aussi partagée par les autres membres du groupe hein, qui ont eux aussi énormément travaillé. Et c'est vrai que la différence qu'il y aurait peut-être avec d'autres grands groupes comme les Stones, les Beatles, etc., c'est à la fois que les quatre membres de Queen ont écrit des singles qui ont été numéro 1 dans le monde entier, donc leur travail a payé, etc. Et aussi parce qu'ils étaient tous diplômés de grandes écoles. Freddie Mercury était diplômé d'une école d'art, la même que Bowie et Pete Townshend. Brian May, il est docteur en astrophysique, excusez du peu. Roger Taylor, le batteur, lui, aurait pu être chirurgien dentiste. Et John Deacon, le bassiste, aurait pu être ingénieur en électronique. Ils ont arrêté leurs études pour faire de la musique, mais c'est quatre bosseurs, quatre intelligences, et quelque part, il n'y a pas ça dans d'autres groupes. On n'a pas ce côté un peu punk, un peu décérébré, un peu... voilà, l'inspiration était guidée par le boulot.
Mais d'ailleurs, ça leur a été un petit peu reproché quand ils sont arrivés comme ça aux yeux du grand public. Il y a eu ce côté, vous n'êtes pas des prolétaires, vous n'êtes pas issus de la base, vous n'êtes pas assez destroy. Parce qu'il y avait quelque chose de très calculé, en fait, dans le groupe Queen. Marie-Bergina.
Il y avait quelque chose de complètement calculé, à une grande intelligence dans le processus de composition sur l'ensemble de la discographie, mais notamment les premières années où on a vraiment l'impression qu'en fait Queen, c'est la quintessence d'absolument tout ce qui se faisait à ce moment-là. En fait, quand on écoute les trois premiers albums, j'irais même plus loin, les sept premiers albums, on a du rock progressif, on a du hard rock, on a de la musique classique, on a absolument de tous les styles, du blues, c'est complètement incroyable. Ça prolifère de tous les styles et c'est d'une grande intelligence, complètement.
Et alors, Thomas Jammet, il y a quelque chose qui m'a surpris en relisant le parcours de Freddie Mercury, c'est qu'on a le sentiment que lui savait déjà ce que devait être Queen dès le commencement. C'est-à-dire que Brian May était donc guitariste pour Smile, et en fait, il les a suivis de très très près pendant très longtemps, sans être le chanteur du groupe, en attendant que le chanteur s'en aille pour prendre leur place, pour prendre sa place, parce qu'ils savaient qu'ensemble, ça ferait quelque chose.
Alors, moi, c'est Richard.
Oui, Richard.
Je vous en prie. En fait, il a eu une intuition assez belle, je trouve. Il voulait faire un groupe Queen, ça veut dire il voulait quelque chose de royal et de majestueux. Et je trouve qu'il a eu une intuition assez fabuleuse qui était partagée avec le guitariste Brian May, qui était de croiser à la fois une tradition glam rock, hard rock, heavy metal, qui est plus le côté de Brian May, avec des harmonies. Vraiment, il y a quelque chose d'obsessionnel chez lui, de faire des harmonies à la Beach Boys, qui tireront au fil de la carrière vers le heavy metal. Et pour rejoindre ce que disait Thomas juste avant, dans tous ces entretiens, Freddie Mercury, il est obsédé par l'idée de travail. Il dit le travail, il y a que ça qui compte. On est quatre gros bosseurs, il faut qu'en permanence on soit tout le temps en train de chercher des choses, quitte à se disputer. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé en relisant certains entretiens juste avant l'émission. Je me suis dit il est tout le temps en train de dire on se prend la tête, on s'engueule, on se dispute en permanence, mais c'est pour dans une direction précise. Il faut qu'on fasse les meilleurs albums, il faut que le groupe dure, il faut qu'il passe, il fasse le passage du temps. Et c'est assez drôle d'imaginer effectivement qu'on a cette image très précise de Freddie Mercury comme un chanteur qui aurait juste un don. Il a une base de baryton qui peut aller vers il lui arrive de chanter comme un ténor aussi, et comme si c'était quelque chose qu'il n'avait pas, alors qu'en fait c'est un travail perpétuel autour de sa voix. Et jusqu'à la fin de sa vie, quand il a l'opportunité d'enregistrer cet album avec la super diva catalane Montserrat Caballé, eh bien il est d'abord intimidé, il se dit j'ai la chance de pouvoir faire il lui dit on va peut-être une chanson, elle lui dit non, on a trois jours ensemble, on va pas faire qu'une chanson, essayons de faire un album complet. Et lui, pendant quatre ou cinq jours, il écoute des dizaines et des dizaines d'opéras pour essayer de capter quelles sont les techniques vocales qui lui manquent pour pouvoir envisager de d'être avec elle, d'agir avec elle, de chanter avec elle. Voilà.
Mais je sais jamais.
Bah, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'effectivement, cette espèce d'envie d'être toujours les meilleurs. Et en fait, il n'arrêtait pas de dire ça aussi dans les interviews. Freddy, en permanence, c'est cette idée de si on n'est pas les meilleurs, ça sert à rien. Si on n'est pas le meilleur groupe, si on ne va pas dépasser toutes les limites, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi toujours été chercher quelque part un petit peu des espèces de première fois partout. Donc ça a été les premiers à jouer, même si ça leur a été énormément reproché en Afrique du Sud, pendant l'apartheid. Ils y ont été. On leur a demandé plein de fois si c'était un message politique, etc. Ils ont dit, nous, on veut nous voir, ben on y va. Mais je pense qu'il y avait cette espèce de côté d'aller quelque part où c'était un peu interdit, où c'était un peu compliqué. Ils ont été joués aussi pendant des périodes très compliquées en Amérique du Sud, dans les années 80, donc pareil avec les jeunes paramilitaires. Ils ont été joués également pendant la guerre froide à Budapest. C'était le premier groupe à jouer également de ce côté-là du rideau de fer. Donc ils ont été cherchés à dépasser les limites. Ils ont toujours été cette espèce de volonté d'être numéro un, d'être les meilleurs. Le travail et cette obsession d'être les meilleurs, cette obsession d'être numéro un, cette obsession de jamais pouvoir être dépassé.
Pardon. Pionnier également, très rapidement, sur le vidéoclip, en fait. Parce que la vidéo qui accompagne la sortie de Bohemian Rhapsody en 1975, c'est une première du genre qu'elle va en penser pour pouvoir accompagner le plan marketing. Et ça fera des petits.
Vous écoutez France Inter, il est 11h31 et c'est l'heure des chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Si je vous dis le chiffre 16, c'est l'âge auquel Brian May a lui-même fabriqué sa célèbre guitare, la Red Special. C'est l'âge auquel Freddie Mercury forme son premier groupe ou l'âge auquel il regagne le Royaume-Uni avec ses parents. 16.
Je crois que les trois réponses sont justes. Non. Ok, c'est la troisième. C'est,
c'est Brian May. J'adore. C'est la guitare de Brian May.
Mais oui. Marielle le dit très calmement parce qu'elle maîtrise. Voilà, elle maîtrise son domaine. Et oui, c'est la guitare de Brian May. C'est la Red Special. C'est 16. Parce qu'en fait, Freddie Mercury a formé son premier groupe à 12 ans et il a rejoint les Royaumes-Unis avec ses parents à 17.
Okay.
Ah, on est fourbe. Si je vous dis le chiffre 7, c'est en dizaine l'année pendant laquelle le groupe Queen s'est formé. C'est en dizaine l'âge qu'aurait Freddie Mercury s'il n'était pas mort, ou le nombre de semaines qu'il a fallu au groupe pour enregistrer Bohemian Rhapsody.
Les trois.
Oh, j'adore faire un. Non, alors il y a deux bonnes réponses. C'est effectivement en dizaine l'année pendant laquelle le groupe Queen s'est formé, et c'est en dizaine l'âge qu'aurait Freddie Mercury s'il n'était pas mort. Par contre, pour Bohemian Rhapsody, il n'aura fallu que 6 semaines. Pas 7. Si je vous dis le chiffre 55, c'est le nombre de singles de Queen sortis entre 1973 et 1991.
Vos questions sont très difficiles tout de même. Hein.
Oui. Mais parce qu'hier, on était tellement humiliés. Vous savez, on a eu des gens extrêmement brillants pour cela. Donc on a tout de suite compliqué.
Okay, c'est le niveau. Vous avez monté le niveau.
Prenez pour eux.
C'est
le nombre de singles de Queen sortis entre 73 et 91, l'année de naissance de Brian May, ou en centaines de milliers, le nombre de ventes du single Another One Bites the Dust à l'échelle planétaire.
Si c'est la première réponse, vous nous demandez les 55 titres qui sont sortis ?
Non. Faute de temps, mais j'aurais envie. Alors ?
C'est les 55 possibilités.
C'est pas la date de naissance de Brian May, parce qu'il est 71 ans hier.
Oui, ouais. C'est bien.
Bon anniversaire,
bon
Brian
anniversaire
May.
Brian May.
Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. On dirait moi en examen. Oui, alors single. En fait, c'est une bonne question.
J'en pose single, réponse numéro 1.
C'est une bonne réponse. C'est le nombre de singles de Queen. Bravo. Oui. Vous pouvez vous applaudir.
Pardon, c'est
voilà. Si je vous dis le chiffre 11, c'est en millions le nombre de ventes de l'album A Night at the Opera dans le monde jusqu'en 2010. C'est en milliers le nombre de personnes composant le public devant lequel Queen joue pour la première fois Under Pressure sur scène, ou la fréquence du vibrato de Freddie Mercury.
J'ai envie de répondre la 3, parce que l'image est assez belle.
Parler en plus du baryton. Ouais. Et du...
Ah oui, vous aviez envie.
Ouais,
mais c'est bien de suivre ses envies, et des fois non. Parce qu'en fait, c'est en millions le nombre de ventes de l'album A Night at the Opera dans le monde jusqu'en 2010. 11,5 millions pour être exact. Et alors, pour la fréquence de vibrato de Freddie Mercury, c'est de 7,04 Hz. Voilà, ce qui est déjà très élevé, car celle des chanteurs d'opéra est généralement entre 5,4 et 6,9. Hein, ça, c'est évidemment des infos qu'on m'a fournies, parce que vraiment, moi, j'en sais foutrement rien. Voilà. Bah écoutez, c'était quand même assez... C'était dur. Et puis, de toute façon, qu'on perde ou qu'on gagne, on écope toujours d'une chanson. Donc maintenant, place à un petit interlude musical avec le rap de Kanye West. On écoute Yikes.
She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. She could get menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself.
Tweaker tweaking off that 2CB, huh? Is he gonna make it TBD, huh? Thought I was gonna run, DMC, huh? I done died and lived again on DMT, huh? See, this the type of high that won't come down. This the type of high that get you gunned down. Easy, easy trolling OD, huh? Turn TMZ to smack DVD, huh? Russell Simmons wanna pray for me too. I'ma pray for him cause he got me too. Thinking what if that happened to me too? Then I'm on E News.
Shit could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself. Shit could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself.
Hey, hospital band, 100 bands, fuck a watch. 100 grand and make your best friends turn to ops. I hear y'all bringing my name up a notch. Guess I just turned the club game up a notch. See, y'all really shocked, but I'm really not. You know how many girls I took to the titty shop? If she get the ass with it, that's a 50 pop. I still bring the bad bitches in the city, y'all. Just a different type of leader. We could be in North Korea. I could smoke a Wiz Khalifa. Told my wife I never seen her after I hit it by Felicia. That's the way that I'ma leave it up.
Menacing,
see, this is why all the business fuck with ye. Fuck what they talk about.
Sometimes I
they take me on myself, mass, off mass, ask yourself.
Shit could get menacing, frightening.
Ask your homegirl right out. Now. Look, you had a shot at ye.
Sometimes I scare myself.
You drop everything.
Myself.
Tweaking, tweaking out that 2CB, huh? This is why your bitches fuck with me, huh? Smash, she gon' end up on TV, huh? Last thing that you ever wanna see, huh? I can feel the spirits all around me. I think Prince and Bikers tryna warn me. They know I got demons all on me. Devil been tryna make an army. They been strategizing the army. They don't know they dealing with a zombie. Niggas been trying to test my Gandhi. Just because I'm dressed like Abercrombie. You see? You see? That's what I'm talking about. That's why I fuck with Ye. See, that's my third part. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. I'm a superhero. Yeah!
C'était le rappeur américain Kanye West avec Yikes dans Blockbuster sur France Inter. Kanye West qui est pour le programmateur musical de cette émission, Thierry Dupin, un petit peu le Freddie Mercury du rap. Donc si jamais vous voulez en débattre, je vous invite à envoyer des mails directement au bureau de Thierry Dupin. C'était un extrait de Princess of the Universe, évidemment la BO d'Highlander. Alors j'aimerais qu'on revienne ensemble, Thomas Jamais, sur la Red Special de Brian May. Parce que vous me disiez qu'en fait, il y avait une histoire incroyable autour de cette guitare.
Bah en fait, c'est une guitare qu'il a construite avec son père. Ils l'ont fabriquée de toutes pièces. Donc cette guitare a été faite de bouts de bois qu'ils ont trouvés dans un terrain vague. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, donc son père a décidé de lui fabriquer sa propre guitare. Donc des bouts de bois d'une table, des bouts de guidon de vélo, des bouts de grille-pain, je crois. Et donc cette guitare, qui est un artefact absolu, a ensuite eu il en a fait des répliques. Mais il y a un exemplaire unique au monde qui a fait la plupart des albums de Queen, enfin tous les albums de Queen d'ailleurs. Et en tout cas, c'était sa guitare au départ, qui a d'ailleurs un design assez particulier. Et ça montre aussi cette espèce de recherche scientifique, technique, d'avoir un son différent. Et l'ampli de Brian May, qui est surnommé le Dickie Amp, parce que John Deacon, le bassiste de Queen, l'a construit, lui aussi, de toutes pièces. Il avait une formation d'ingénieur en électronique, et donc il a construit l'ampli de Brian May pour avoir, là aussi, un son particulier. Donc on voit cette espèce de recherche assez incroyable, quand même, dans ce groupe, d'avoir un son qui ne ressemble à personne d'autre, et ça rejoint cette volonté de Freddie Mercury, quelque part, d'avoir cette espèce de volonté de surpasser les limites, et de tout maîtriser.
Alors depuis le début, on ne tarit pas d'éloges sur Queen, mais il y a des passages obligés dans cette émission, et même si ça me coûte aujourd'hui particulièrement, c'est l'heure de la séquence « J'aime pas ».
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Et non, je déconne. Car figurez-vous, c'est la première fois que depuis la disparition de Freddie Mercury, eh bien on trouve très peu d'enregistrements audio de gens qui n'aiment pas Queen. Ils se cachent en fait. Donc on a décidé pour une fois de faire une séquence j'aime bien. Donc je vais faire le jingle. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.
On aimait Freddie Mercury pour son extravagance, ce sens de l'outrance qu'il savait faire passer sur scène et qui jalonnait sa vie privée. Jamais il ne s'est caché de son homosexualité et toutes ces frasques qui faisaient la une des journaux à sensation appartiennent désormais à l'histoire du rock.
Il était un compositeur, un inventeur, un interprète, un chanteur de grand talent, le seul capable de réunir des foules dans les stades.
Le rock, il en était l'un des grands porte-parole avec le groupe Queen, formé en 1971 et dont il était le principal compositeur. Une formation très populaire en Grande-Bretagne, comme en atteste leur concert de Wembley. Quatre garçons archi-connus dans le monde entier, Queen se produisait dans les stades.
Alors c'est quelque chose d'assez classique, quand on meurt, on a soudain beaucoup de talent, mais ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que Queen a effectivement tout de suite été adoubé par la critique, le grand public? Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse, Marie-Virginia?
La presse avait quelques petits différends avec Queen, c'est-à-dire qu'en fait, bilatéralement, Queen n'aimait pas la presse n'aimait pas Queen. Les premiers albums se sont fait démonter par tous les critiques, à quelques exceptions près. Et Freddie Mercury, globalement, surtout au début de sa carrière, s'est beaucoup restreint en termes d'interviews et d'interventions auprès de la presse. Ils se sont principalement construits autour de l'amour du public. Et c'est vraiment par la suite et beaucoup plus tard que la presse, finalement, a salué la carrière de Queen et a décidé de lui donner aussi le succès qu'on lui connaît.
Ça a même été très loin, hein, parce qu'effectivement, Freddie, au départ, avait été traité tous les noms dans les journaux spécialisés en musique rock au Royaume-Uni. Et il y a même un journal qui, on ne le citera pas, hein, mais qui, dans les années 80, a traité Queen de premier groupe rock fasciste. Parce que, justement, cette espèce d'adulation du public, les gens qui se mettaient à taper dans les mains, et en fait, les critiques rock détestaient ça.
Et alors, Richard Guetta, on n'a pas encore beaucoup parlé du nom Queen, parce qu'en fait, c'était un nom porteur de plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une communauté gay qui s'est emparée de ça, et eux-mêmes ont été un petit peu surpris de la manière dont le nom était perçu dans le milieu underground des fans de rock.
Bah lui, en tout cas, ce qu'il éclatait, je pense, au moment où il décide d'appeler avec eux le groupe, de l'appeler Queen, c'est toute la polysémie possible, toutes les interprétations possibles, donc évidemment la possibilité d'être à la fois masculin, féminin, androgyne et de pouvoir commencer, je suppose, à préparer son public dans l'hypothèse que l'un des membres, voire plusieurs, soit bisexuel, soit homosexuel. Alors il a annoncé dans des interviews qu'il a dit qu'il était gay à partir de 74-75, mais il a ensuite été extrêmement discret sur sa vie privée, tout en expliquant qu'il avait une vie sexuelle extrêmement riche, couchant avec des femmes, mais plus souvent des hommes, ayant une grande histoire d'amour avec Mary Austin, avec qui il a vécu 7 ans, et puis quand ils ont compris tous les deux qu'ils préféraient coucher avec les garçons, c'est resté la personne la plus proche et la destinataire de la sublime chanson Love of My Life, c'est, je crois, quelqu'un à qui il souhaitait léguer toute sa fortune et qui gère son patrimoine derrière. Mais effectivement, sur l'aspect royal et majestueux qui était l'intention de base, de faire quelque chose de gigantesque et d'assez noble, ça passe aussi par embrasser tous les genres, je pense. Donc effectivement, mais c'est pas, contrairement à ce que l'archive journalistique que vous avez retrouvé, c'est pas un porte-parole de la communauté gay. C'est quelqu'un qui l'a affirmé, donc déjà à cette époque c'est un geste courageux, mais ensuite qui a dit voilà, je l'ai dit, mais je ne serai pas celui qui parlera au nom des homosexuels.
D'accord. Et en plus, on parlait de ce personnage un peu androgyne qu'il a créé sur scène, mais il faut pas oublier qu'il était contemporain de David Bowie et qu'ils se connaissaient depuis très très tôt dans leur carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette relation particulière entre Freddie Mercury, teintée d'admiration, des fois même peut-être de jalousie, Thomas Jamet?
Bah, je pense que c'est des contemporains, donc on a en fait une période assez incroyable, hein, qui a vu naître des monstres sacrés comme Bowie, comme Mercury, comme d'autres aussi bien sûr, donc comme Elton John aussi d'une certaine façon. Donc on a cette génération de stars qui aujourd'hui auraient, s'ils étaient vivants comme Bowie ou Mercury, 70-75 ans, et qui sont en fait le pur produit de cette espèce espèce de postmodernité musicale, d'androgynie, de mélange des genres, et qui sont en fait des dépositaires, qui ont été les dépositaires à un moment donné du passage du rock'n'roll classique à une sorte de d'explosion musicale avec le glam, le punk, qui est arrivé après, qui a voulu les balayer d'ailleurs, mais qu'ils ont repris, qu'ils ont su reprendre d'une certaine façon, parce que Queen a une réponse formidable au punk en 77, c'était l'album News of the World, avec une sorte de vraie réponse, une sorte de pain dans la gueule au punk en disant, bah, vous allez voir ce que vous allez voir, on va être encore plus puissant que vous, encore plus violent que vous et encore plus provocateur. Mais cette espèce de provocation naturelle, en fait, ils l'avaient déjà, ils avaient tout compris. Et c'est pour ça qu'ils ont duré, c'est pour ça que le punk n'a pas duré, à part dans la mode et la fashion et aujourd'hui quelques fringues. Mais leur musique à eux est restée, parce qu'en fait, elle emprunte à tous les styles musicaux, à tous les styles vestimentaires. C'est des caméléons, ces mecs-là. There's no chance for us. All decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us.
Alors vous parliez de l'opposition Queen et Punk, et il y a notamment une anecdote sur les Sex Pistols où on se rend compte qu'en fait ils s'entendaient pas vraiment.
Et ben en fait, en 1977, lorsque Queen enregistre News of the World, au même moment et dans le studio d'en face, les Sex Pistols enregistrent Nevermind the Bollocks, Here are the Sex Pistols, et en fait les relations entre Sid Vicious et Freddie Mercury sont complètement conflictuelles. En fait, ils en sont presque à venir aux mains, puisque c'était deux conceptions musicales tellement opposées, avec Queen qui propose un travail méticuleux de chaque note, chaque son. Et le Sex Pistols, c'est de la musique brute, pure, instantanée et spontanée. Et c'était deux conceptions musicales qui sont complètement opposées, et musicalement, et humainement.
Et c'est chargueté.
Ouais, alors ce qu'il y a de très drôle sur cette anecdote, c'est qu'en fait, Freddie Mercury avait peur d'être ringardisé par le mouvement punk. Il s'est dit, ils sont tellement brutaux, impulsifs, bruts de décoffrage, que nous, on travaille tant, ça se trouve, la jeunesse va vouloir ça. Et le fait qu'il se retrouve dans les deux studios côte à côte, il s'est dit, je prends les devants. Il est allé voir les Sex Pistols en leur disant, si vous acceptez de chanter une de nos chansons, moi, j'accepte de chanter l'une des vôtres. Et en fait, ce qu'il y a de fou, c'est qu'évidemment, Johnny Rotten et Sid Vicious l'ont regardé en disant, bah, en fait, on va pas le faire, parce que vous représentez tout ce quoi on se construit contre vous. Et vu qu'il a refusé, il a commencé à taquiner Sid Vicious, qu'il surnommait Simon Ferocious. Et vu qu'il avait sur le visage ou sur les bras des marques de bagarre, de coupure, il lui dit, mais comment tu vas faire pour monter sur scène avec tout ça? Qui va venir te soigner? Et évidemment, il était super vexé. Donc ça, mais ce qui est marrant, c'est que à un problème d'ego près, il y a une possibilité de duo, Queen Sex Pistols, ce qui quand même restera dans une espèce de réalité alternative de l'histoire musicale.
Ouais, et puis d'ailleurs aussi une anecdote qui est assez amusante aussi, hein, c'est Top of the Pops, Queen annule une émission et la première apparition télé des Sex Pistols, c'est grâce à Queen, parce que Queen ne peut pas, donc ils ont pris un groupe qui passait, ils ont pris Sex Pistols, et Sex Pistols arrive accoutré en plus avec des brassards à croix gammées, Vivienne Westwood, Michael McLaren, évidemment très provocateur, et c'est comme ça qu'ils percent suite à cette espèce de finalement d'annulation dernière minute. Donc c'est vrai que la cette espèce de conflit et de mélange est assez intéressant, et pourtant il n'y a pas plus opposé.
C'est l'heure du blind test made in blockbuster, un blind test consacré aujourd'hui au grand monarque de la chanson. Donc vous allez entendre des artistes qui sont des rois, des reines, des princesses, à vous de les reconnaître.
Michael Jackson.
Mais oui, le King of Pop. Ah, on a commencé facile. Vous allez voir. Là, j'ai tout changé. On avait un blind test beaucoup plus dur. Mais vu que j'ai l'impression qu'on a été vraiment, vraiment odieux avec vous en début d'émission, je l'ai simplifié. Vous allez voir. On est comme ça. Son suivant.
Stéphanie de Monaco, comme un ouragan.
Alors ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'être la première à répondre.
C'est mon côté kitsch.
Il faut faire semblant. Je vois pas, je connais pas du tout. Eh oui, Stéphanie de Monaco, comme un ouragan. Ah, on écoute dans une émission consacrée à Queen. Je pense qu'on peut pas faire plus disruptif. Voilà, son suivant.
Well, it's one for the money.
Ah bon?
Vous êtes
ouais,
je crois.
Hein. Oui. Alors avec un nom, c'est dans ces moments-là que j'adore mes cours d'anglais. Blue Suede Shoes. Voilà, son suivant.
Beyoncé,
ouais.
Oui, Queen Bee avec Hello. Son suivant.
Prince.
Ah évidemment, Purple Rain. C'est rapide. Mais on peut le laisser durer. Lui il peut vivre côte à côte avec Queen. Ah, c'est bon. Allez, son suivant.
Princesse Erika.
Oui, oh Princesse ouais. Erika. Et oui. Faut que je travaille de Princesse Erika. Eh bien oui, parce qu'il y a des grandes monarchies, puis il y a des petites monarchies. Bon, et vous avez été excellent. Vous avez été excellent, là, vraiment. Bon, alors, en même temps, c'était très simple. Mais quand même, vous avez été bon. Donc, vous avez gagné une chanson. Et quelle chanson? Quelle chanson? Parce que tout de suite, on va écouter Queen en duo avec David Bowie pour un morceau qui est rentré dans la légende, Under Pressure, sorti en 1981. J'en profite pour vous dire que la programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Valentin Azan-Zelinski et Clément Berman. Cette émission est réalisée par Céline Hila, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de la pétillante Prudence Castello.
Slashed and torn. Oh,
pressure. Pressure.
Ah, j'ai des frissons. C'était Under Pressure, chanté par la formidable communion des voix de Queen et de David Bowie. Marie Virginia, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce titre? Parce que c'est de la folie.
C'est de la folie. Il y a plein de petites anecdotes dans la grande anecdote d'Under Pressure. Alors déjà, David Bowie est passé à Montreux un peu par hasard. C'était au moment où Queen enregistrait l'album Hot Space, donc en 1981. Et donc Queen venait d'acheter ce studio à Montreux. David Bowie arrive complètement par hasard et en fait, ils se sont dit, tiens, si on faisait un duo ensemble, on peut travailler pour la journée et puis on verra ce que ça peut donner. Brian May a commencé à trouver ce petit riff de basse qui fait aussi toute la légende du titre. Ils sont partis manger et Brian May a complètement oublié ce riff. Et en fait, pendant un petit moment, ils étaient avec John Deacon en train d'essayer de retravailler, de se ressouvenir de ce riff. John Deacon l'a retrouvé, on ne sait pas trop comment, mais il l'a retrouvé. Et sur l'enregistrement des parties vocales, Bowie et Mercury avaient décidé d'un commun accord de ne pas écouter ce que l'autre enregistrait. Donc Mercury a enregistré dans un premier temps tout seul. David Bowie s'est mis à la porte du studio pour écouter tout ce que Mercury faisait. Un peu plus tard, quand il allait enregistrer, du coup, toutes les harmonies qu'on entend, en fait, elles étaient déjà là dès le départ, puisque Bowie avait tout entendu. Et Mercury s'est mis à la porte pour écouter tout ce que David Bowie faisait. Et il a fait, mais qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qui se passe, et c'est génial. Et puis voilà, donc la légende Under Pressure.
Et alors vous me disiez hors antenne qu'on a failli aussi avoir un duo Michael Jackson, Freddie Mercury.
Ah mais il existe, il existe. Hein. Il est sorti sur une compilation qui est sortie il y a quelques années. Il a jamais vraiment été assumé non plus ni par la descendance de Michael Jackson, enfin pas sa descendance, je veux dire, mais toutes les ayants droit, etc. Parce qu'ils ont, voilà, ça a jamais été vraiment terminé. Mais normalement, ce titre aurait dû être sur Thriller et Freddie Mercury a été pendant l'enregistrement de Thriller en studio avec Michael Jackson, avec des anecdotes là complètement incroyables aussi. On parlait en antenne de lama, de panthère, de beaucoup de drogue, mais effectivement,
c'est-à-dire que Mercury était drogué et il voyait des vraies panthères.
Exactement, et c'était le lama de Michael Jackson qui était avec leur studio. Donc voilà, ça s'est un peu mal terminé, on va dire. Ils n'ont jamais été au bout de l'histoire et c'est dommage.
Eh bien écoutez, je vous remercie, vraiment merci pour ces anecdotes. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages au 01 56 40 30 20, 01 56 40 30 20. Lundi prochain, on parlera de Superman, de Batman, de Wonder Woman, Flash, Green Lantern et bien l'autre. On parlera de l'éditeur DC Comics. Mais pour l'heure, bonjour Dorothée Barba.
Bonjour à tous. Le bestiaire se poursuit dans le débat de midi juste après les lamas et les jaguars, c'est ça? Nous, on parle des chats et des chiens. C'est le grand match aujourd'hui. Est-ce qu'il faut préférer les chats ou les chiens? A-t-on déjà vu un chat policier ou un chat guide d'aveugle ou un chat qui va sauver des victimes dans les avalanches? Voilà, je suis pas du tout de parti pris, comme vous l'entendez.
Moi, je pense que le chat pourrait, mais il ne veut pas.
Ah, c'est ça. Il a autre chose à faire de plus
le chat est un feignant.
Vous nous écrivez sur franceinter.fr à la rubrique Le débat de midi. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci Dorothée.
Dans nos chansons, il y a beaucoup de sexe, mais personnellement, je ne vais pas chercher l'inspiration en haut des montagnes.